À l'écoute de RFI, 22h en temps universel, 23h à Paris.
24h en France.
Soyez les bienvenus dans 24h en France. Nous avons 10 minutes ensemble pour passer en revue l'actualité française du jour.
Baptiste Coulon.
Bonsoir à tous. À la une ce soir, la contestation contre la vie chère dans les Outre-mer jusque dans les rues de Paris. Aujourd'hui, une manifestation a eu lieu dans la capitale à l'appel de plusieurs associations antillaises pour alerter dans l'Hexagone. Reportage à suivre. Un séminaire gouvernemental autour du Premier ministre Michel Barnier débute demain. Objectif déterminer un plan de travail sur 3 ans alors que le gouvernement est toujours à la merci d'une motion de censure. Dans ce journal également, l'entrée en vigueur de zones à trafic limité à Paris. On verra ce qu'en disent les automobilistes et les riverains. Et puis cette fois, il n'y a pas eu d'exploit pour Hugo Humbert, le Français battu en finale du Masters 1000 de tennis, mais satisfait de son parcours, vous l'entendrez.
RFI.
L'actualité en France, plusieurs milliers de personnes donc dans les rues de Paris cet après-midi contre la vie chère dans les Outre-mer. La diaspora ultramarine a fait entendre sa voix alors que le mouvement qui secoue la Martinique, notamment depuis début septembre, ne s'éteint pas. Les manifestants réclamaient l'alignement des prix sur ceux de la métropole à l'appel des leaders du mouvement martiniquais venus chercher du soutien dans l'Hexagone. Marie Casadebé.
Aya Pouyo, rien pour eux. La colonisation nous a déjà tout pris. Là, c'est beau, c'est fini.
La foule est vêtue de rouge, la couleur du RPRAC, le collectif à l'initiative du mouvement contre la vie chère en Martinique. La couleur de la colère qui touche aussi les Antillais de métropole, solidaires de leur famille et également concernés par les tarifs appliqués de l'autre côté de l'Atlantique. Miguel est martiniquaise. Pour cette quinquagénaire, la diaspora doit se faire entendre.
Oui, parce que nous sommes assez nombreux. On pourrait remplir un département même comme celui de la Martinique. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que nous sommes vraiment français ? Quand on veut envoyer un colis par la poste, on paye comme si on l'envoyait à l'étranger. On veut nous taxer pour les billets d'avion, c'est inadmissible.
En tête de cortège, les manifestants se bousculent pour apercevoir les 3 leaders du RPRAC, arrivés la veille de Martinique.
C'est le représentant du peuple, mieux que nos élus, qui sont diplômés.
Parmi eux, Aude Goussard, venue expressément s'adresser aux ultramarins de métropole.
On est monté pour leur dire que nous sommes conscients qu'ils le vivent ici quand ils viennent en vacances et nous devons faire baisser les prix impérativement.
Un combat porté jusque sous les fenêtres du ministère des Outre-mer.
Reportage de Marie Casadebé. Et puis notez qu'en Nouvelle-Calédonie, le couvre-feu en vigueur depuis le 14 mai va être allégé à partir de demain. Il sera désormais appliqué de minuit à 5h du matin et les restrictions sur la vente d'alcool vont aussi être assouplies. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie.
24h en France.
Une minute de silence et beaucoup d'émotions dans les rues de Marseille cet après-midi. 2000 personnes ont marché pour demander justice et des logements dignes 6 ans après le drame de la rue d'Aubagne, l'effondrement de 2 immeubles insalubres dans le quartier de Noailles. 8 personnes avaient trouvé la mort. Le procès de ce drame débute dans 4 jours. Il est très attendu par les familles de victimes. 16 prévenus, dont un ancien adjoint du maire, de l'ancien maire Jean-Claude Gaudin, sont attendus à la barre. Attention, si vous devez prendre l'avion depuis la France, Air France annonce suspendre jusqu'à nouvel ordre le survol de la mer Rouge entre l'Est de l'Afrique et la péninsule arabique. Décision qui fait suite à la suspicion d'observation par un équipage d'un objet lumineux à haute altitude dans la zone du Soudan. C'est ce qu'écrit la compagnie sur X sans donner davantage de précision. Une 40aine de ministres d'horizons politiques différents dans une même pièce, plusieurs heures pour dégager un plan de travail de 3 ans malgré les risques de censure à l'Assemblée. Un grand séminaire gouvernemental à l'initiative du Premier ministre Michel Barnier débute demain matin à 9h. Reste à savoir ce qu'il en ressortira. En tout cas, ce qui est sûr, Raphaël Delvolvé, c'est que chacun ira de sa proposition.
Michel Barnier le sait, il dirige une coalition fragile, hétéroclite et qui pour le moment brille surtout par son manque de cohésion. Réputé homme de dialogue, il entend impliquer tous ses ministres, tous auront leur mot à dire et tous devront proposer des idées autour de 5 thèmes. Les collectivités, le travail, l'immigration, l'outre-mer et la simplification. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déjà dit ses intentions, très actif ces derniers jours sur le narcotrafic et la question migratoire. Il martèle vouloir 2 nouvelles lois. La ministre Catherine Vautrin assure elle aussi venir avec des propositions, notamment sur le financement des collectivités locales ou encore l'outre-mer au moment où la situation dans les Antilles est particulièrement tendue. Le sujet de la fin de vie pourrait également s'inviter. Même si ça n'est pas dans son champ d'action, la ministre de l'écologie Agnès Pannier-Runacher a appelé ce week-end le gouvernement à reprendre les travaux entamés avant la dissolution. Michel Barnier sera donc surtout à l'écoute. Il compte ensuite rédiger un plan d'action dévoilé au plus tard au mois de janvier pour montrer qu'il n'entend pas être un Premier ministre de passage, même si cela ne dépend pas que de lui.
Raphaël Delvolvé, service politique de RFI. Il y a une mesure en revanche sur laquelle l'exécutif ne reviendra pas, c'est la taxe d'habitation. Pas de retour de cette taxe sur les résidences principales, assure Catherine Vautrin, la ministre du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation. Le retour de cette taxe a été un temps évoqué pour redresser les finances du pays. C'est une revendication notamment portée par les maires qui regrettent la perte de cette ressource pour leur commune. La ministre ne ferme pas complètement la porte puisqu'elle propose d'ouvrir une concertation avec les élus locaux début 2025. Cette mesure-là, en revanche, est en vigueur depuis une semaine. La mise en place des zones à trafic limité dans 4 arrondissements de Paris. Cela signifie que les conducteurs traversant ces zones sans s'y arrêter ne pourront plus le faire, sauf exception comme les véhicules de secours, les bus ou les taxis. Une première dans la capitale qui ne manque pas de faire réagir les riverains et les automobilistes rencontrés par Camille Salcedo-Ruiz. Reportage.
Un flot ininterrompu de voitures traverse l'avenue de l'Opéra, mais plus pour longtemps. Sur cet axe, la mairie espère réduire de 30% le trafic. Son but, décongestionner l'hypercentre de Paris. Victor, 40 ans, y voit une nécessité.
Ça va faire râler les automobilistes, mais c'est juste passager. Une fois qu'on aura trouvé des itinéraires bis, ça ira bien. Et puis on arrivera peut-être à un moment où il y aura beaucoup moins de voitures et on va privilégier le transport collectif et partagé.
Mais certains commerçants de l'avenue sont bien moins convaincus.
J'ai beaucoup de clientes qui ne reviennent plus sur Paris, déjà parce qu'elles ne peuvent pas rentrer facilement. Et puis depuis quelques temps, il y a de moins en moins de chiffre d'affaires. Et là, je pense qu'il n'y aura plus du tout de chiffre d'affaires.
Eric, 65 ans, se pose aussi la question.
J'ai été récupérer ma femme et on repart effectivement après. Sauf que là, ça va devenir ingérable, ce genre de choses. Je ne peux plus venir la chercher sans avoir une batterie d'autorisation. Et puis, accessoirement, comment ça va se passer au niveau du contrôle ?
Effectivement, si le but de cette zone à trafic limité est clair, son contrôle ne l'est pas encore. La mairie de Paris et la préfecture doivent définir prochainement les modalités. La ville entre pour l'instant dans une phase de pédagogie.
Reportage de Camille Salcedo-Ruiz. Allez, on passe au sport et le tennis ce soir. La dernière marche était peut-être un peu trop haute pour le français Hugo Humbert, battu en finale au Masters 1000 de Paris-Bercy par l'allemand Alexander Zverev, troisième joueur mondial. Défaite en 2-7, 6-2, 6-2. Alexander Zverev cumule désormais 7 titres en Masters 1000, son tout premier gagné à Bercy. Tristesse pour Hugo Humbert qui termine ce tournoi heureux quand même, heureux d'avoir pu se hisser pour la première fois en finale. Finale d'un Masters 1000.
Forcément, ça restera un souvenir incroyable d'avoir été en finale du tournoi mythique de Bercy. Aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué, émoussé physiquement, et puis lui m'a rien donné. Il a joué un super niveau de jeu. Voilà, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais la semaine a été incroyable. Je me suis vraiment surpassé dans tous les domaines, que ce soit physique, mental, j'ai battu Alcaraz sur le central de Bercy, c'est des choses que j'ai envie de retenir. Il y a eu un super niveau de jeu, donc ça veut dire que je suis sur le bon chemin, il faut que je continue ma route et puis j'espère un jour pouvoir gagner un tournoi de cette envergure. Ouais.
Voilà, Hugo Humbert satisfait de son parcours au micro de notre journaliste Eric Mamrut. Et puis les sports, c'est aussi le football et le championnat de France de Ligue 1 suite et fin de la 10e journée cet après-midi et ce soir. Les résultats, 1-0 pour Toulouse face à Reims, Auxerre à domicile qui domine et corrige même, on peut le dire, Rennes 4-0. Le Havre de son côté prend 3 points après sa victoire 1-0 face à Montpellier, victoire au Havre à domicile. Et puis ça s'est terminé il y a quelques minutes dans le tout dernier match de la journée avec Marseille qui est allé s'imposer à Nantes 2-1. Marseille qui récupère la deuxième place du championnat devant Monaco mais toujours derrière Paris qui s'envole en tête avec 6 points d'avance après la victoire des Parisiens hier face à Lens 1-0. Et puis le football, mais en dehors des terrains de football cette fois-ci, avec l'enquête pour harcèlement moral et sexuel qui visait l'ancien président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui a été classé sans suite. C'est ce que l'on a appris ce dimanche de sources proches du dossier, confirmant une information des journaux Le Monde et L'Équipe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, vous savez tout. Merci à vous d'écouter RFI, 23h10 à Paris.